Chapitre 37. Cependant, la revue continuait. Cette armée, dont le désordre m'avait offert un tableau si extraordinaire quelques heures auparavant, n'était pas moins bizarre sous les armes. C'était tantôt des troupes de nègres absolument nus, munis de massues, de tomahawks, de casse-têtes, marchant au son de la corne à bouquin comme les sauvages. Tantôt des bataillons de mulâtres, équipés à l'espagnol ou à l'anglaise, bien armés et bien disciplinés, réglant leurs pas sur le roulement d'un tambour. Puis des cohues de négresses, de négrillons, chargés de fourches et de broches, des fatras courbés sous de vieux fusils sans chien et sans canon, des griottes avec leur parure bariolée, des griots, effroyables de grimaces et de contorsions, chantant des airs incohérents sur la guitare, le tap-tam et le balafon. Cette étrange procession était de temps à autre coupée par des détachements hétérogènes de griffes, de marabouts, de sacatras, de mamelucos, de carterons, de sans-mêlés libres, ou par des hordes nomades de noirs marrons à l'attitude fière, aux carabines brillantes, traînant dans leurs rangs leurs cabrouets tout chargés ou quelques canons pris au blanc, qui leur servaient moins d'armes que de trophées, et hurlant à pleine voix les hymnes du camp du Grand Pré et d'Oinacé. Au-dessus de toutes ces têtes flottaient des drapeaux de toutes couleurs, de toutes devises, blancs, rouges, tricolores, fleurs de lysée, surmontés du bonnet de liberté, portant pour inscription « Mort aux prêtres et aux aristocrates, vive la religion, liberté, égalité, vive le roi, à bas la métropole, viva Espagna, plus de tyrans, etc. » Confusion frappante qui indiquait que toutes les forces des rebelles n'étaient qu'un amas de moyens sans but, et qu'en cette armée, il n'y avait pas moins de désordre dans les idées que dans les hommes. En passant tour à tour devant la grotte, les bandes inclinaient leurs bannières et Biassou rendait le salut. Il adressait à chaque troupe quelque réprimande ou quelque éloge, et chaque parole de sa bouche, sévère ou flatteuse, était recueillie par les siens avec un respect fanatique et une sorte de crainte superstitieuse. Ce flot de barbares et de sauvages passa enfin. J'avoue que la vue de tant de brigands, qui m'avaient distrait d'abord, finissait par me peser. Cependant, le jour tombait, et au moment où les derniers rangs défilèrent, le soleil ne jetait plus qu'une teinte de cuivre rouge sur le front granitique des montagnes de l'Orient. Chapitre 38. Biassou paraissait rêveur. Quand la revue fut terminée, qu'il eut donné ses derniers ordres et que tous les rebelles furent rentrés sous leurs agoupas, il m'adressa la parole. « Jeune homme, me dit-il, tu as pu juger à ton aise de mon génie et de ma puissance. Voici que l'heure est venue pour toi d'en aller rendre compte à Léogris. » Il n'a pas tenu à moi qu'elle ne vînt plus tôt, lui répondis-je froidement. « Tu as raison, répliqua Biassou. Il s'arrêta un moment comme pour épier les faits que produirait sur moi ce qu'il allait me dire, et il ajouta « Mais il ne tient qu'à toi qu'elle ne vienne pas. « Comment ? M'écriai-je étonné. Que veux-tu dire ? « Oui, continua Biassou, ta vie dépend de toi. Tu peux la sauver, si tu le veux. » Cet accès de clémence, le premier et le dernier sans doute que Biassou ait jamais eu, me parut un prodige. Lobby, surpris comme moi, s'était élancé du siège où il avait conservé si longtemps la même attitude extatique, à la mode des fakirs hindous. Il se plaça en face du généralissime et éleva la voix avec colère. « Que dice l'excellentissimo signor mariscal de campo ?»« Que dit le très excellent seigneur maréchal de camp ?»« Se souvient-il de ce qu'il m'a promis ?»« Il ne peut !» Ni lui, ni le bon Jou, disposez maintenant de cette vie. Elle m'appartient. » En ce moment encore, à cet accent irrité, je crus me ressouvenir de ce maudit petit homme. Mais ce moment fut insaisissable, et aucune lumière n'en jaillit pour moi. Biassou se leva, sans s'émouvoir, parla bas un instant avec Lobby, lui montra le drapeau noir que j'avais remarqué, et après quelques mots échangés, le sorcier remua la tête de haut en bas et la releva de bas en haut, en signe d'adhésion. Tous deux reprirent leur place et leurs attitudes. « Écoute, » me dit alors le généralissime, en tirant de la poche de sa veste l'autre dépêche de Jean-François qu'il y avait déposée. « Nos affaires vont mal. Boukman vient de périr dans un combat. Les Blancs ont exterminé 2000 Noirs dans le district du cul-de-sac. Les colons continuent de se fortifier et de hérisser la plaine de postes militaires. Nous avons perdu, par notre faute, l'occasion de prendre le cap. Elle ne se représentera pas de longtemps. Du côté de l'Est, la route principale est coupée par une rivière. Les Blancs, afin d'en défendre le passage, y ont établi une batterie sur des pontons et ont formé sur chaque bord deux petits camps. Au sud, il y a une grande route qui traverse ce pays montueux appelé le Haut du Cap. Ils l'ont couverte de troupes et d'artillerie. La position est également fortifiée du côté de la terre par une bonne palissade, à laquelle tous les habitants ont travaillé, et l'on y a ajouté des chevaux de frise. Le cap est donc à l'abri de nos armes. Notre embuscade aux gorges de domptes mulâtres a manqué son effet. À tous nos échecs se joint la fièvre de Siam qui dépeuple le camp de Jean-François. En conséquence, le grand amiral de France. Nous avons déjà dit que Jean-François prenait ce titre. Pense, et nous partageons son avis, qu'il conviendrait de traiter avec le gouverneur Blanchelande et l'Assemblée coloniale. Voici la lettre que nous adressons à l'Assemblée à ce sujet. Écoute. Messieurs les députés, de grands malheurs ont affligé cette riche et importante colonie. Nous y avons été enveloppés et il ne nous reste plus rien à dire pour notre justification. Un jour, vous nous rendrez toute la justice que mérite notre position. Nous devons être compris dans l'amnistie générale que le roi Louis XVI a prononcée pour tous, indistinctement. Sinon, comme le roi d'Espagne est un bon roi, qui nous traite fort bien et nous témoigne des récompenses, nous continuerons de le servir avec zèle et dévouement. Nous voyons par la loi du 28 septembre 1791 que l'Assemblée nationale et le roi vous accordent de prononcer définitivement sur l'état des personnes non libres et l'état politique des hommes de couleur. Nous défendrons les décrets de l'Assemblée nationale et les vôtres, revêtus des formalités requises jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Il serait même intéressant que vous déclariez, par un arrêté sanctionné de Monsieur le Général, que votre intention est de vous occuper du sort des esclaves. Sachant qu'ils sont l'objet de votre sollicitude, par leur chef, à qui vous feriez parvenir ce travail, ils seraient satisfaits, et l'équilibre rompu se rétablirait en peu de temps. Ne comptez pas cependant, messieurs les représentants, que nous consentions à nous armer pour les volontés des assemblées révolutionnaires. Nous sommes sujets de trois rois, le roi de Congo, maître né de tous les Noirs, le roi de France, qui représente nos pères, et le roi d'Espagne, qui représente nos mères. Ces trois rois sont les descendants de ceux qui, conduits par une étoile, ont été adorés l'homme-dieu. Si nous servions les assemblées, nous serions peut-être entraînés à faire la guerre contre nos frères, les sujets de ces trois rois, à qui nous avons promis fidélité. Et puis, nous ne savons ce qu'on entend par volonté de la nation, vu que depuis que le monde règne, nous n'avons exécuté que celle d'un roi. Le prince de France nous aime, celui d'Espagne ne cesse de nous secourir. Nous les aidons, ils nous aident, c'est la cause de l'humanité. Et d'ailleurs, ses majestés viendraient à nous manquer, que nous aurions bien vite trôné un roi. Telles sont nos intentions, moyennant quoi, nous consentirons à faire la paix. Signé Jean-François, général, Biassou, maréchal de camp, Després, Manzo, Toussaint, Aubert, commissaire ad hoc. Il paraîtrait que cette lettre, ridiculement caractéristique, fut en effet envoyée à l'Assemblée. « Tu vois !» ajouta Biassou après la lecture de cette pièce de diplomatie nègre, dont le souvenir s'est fixé mot pour mot dans ma tête. « Tu vois que nous sommes pacifiques. Or, voici ce que je veux de toi. Ni Jean-François, ni moi, n'avons été élevés dans les écoles des Blancs, où l'on apprend le beau langage. Nous savons nous battre, mais nous ne savons point écrire. Cependant, nous ne voulons pas qu'il reste rien dans notre lettre à l'Assemblée qui puisse exciter les bulérias orgueilleuses de nos anciens maîtres. Tu parais avoir appris cette science frivole qui nous manque. Corrige les fautes qui pourraient, dans notre dépêche, prêter à rire aux Blancs. À ce prix, je t'accorde la vie. » Il y avait dans ce rôle de correcteur des fautes d'orthographe diplomatique de Biassou quelque chose qui répugnait trop à ma fierté pour que je balançasse un moment. Et d'ailleurs, que me faisait la vie? Je refusai son offre. Il parut surpris. « Comment ? » s'écria-t-il. « Tu aimes mieux mourir que de redresser quelques traits de plume sur un morceau de parchemin ?»« Oui, » lui répondis-je. Ma résolution semblait l'embarrasser. Il me dit après un instant de rêverie, « Écoute bien, jeune fou, je suis moins obstiné que toi. Je te donne jusqu'à demain soir pour te décider à m'obéir. Demain, au coucher du soleil, tu seras ramené devant moi. Pense alors à me satisfaire. Adieu, la nuit porte conseil. Songes-y bien. Chez nous, la mort n'est pas seulement la mort. » Le sens de ces dernières paroles, accompagné d'un rire affreux, n'était pas équivoque. Et les tourments que Biassou avait coutume d'inventer pour ses victimes achevaient de l'expliquer. « Candy, ramenez le prisonnier, » poursuivit Biassou. « Confiez-en la garde au noir du morne rouge. Je veux qu'il vive encore un tour de soleil, et mes autres soldats n'auraient peut-être pas la patience d'attendre que les 24 heures fussent écoulées. » Le mulâtre Candy, qui était le chef de sa garde, me fit lier les bras derrière le dos. Un soldat prit l'extrémité de la corde et nous sortîmes de la grotte. Chapitre 39. Quand les événements extraordinaires, les angoisses et les catastrophes viennent fondre tout à coup au milieu d'une vie heureuse et délicieusement uniforme, ces émotions inattendues, ces coups du sort, interrompent brusquement le sommeil de l'âme qui se reposait dans la monotonie de la prospérité. Cependant, le malheur qui arrive de cette manière ne semble pas un réveil, mais seulement un songe. Pour celui qui a toujours été heureux, le désespoir commence par la stupeur. L'adversité imprévue ressemble à la torpille. Elle secoue, mais engourdit. Et l'effrayante lumière qu'elle jette soudainement devant nos yeux n'est point le jour. Les hommes, les choses, les faits passent alors devant nous avec une physionomie en quelque sorte fantastique et se meuvent comme dans un rêve. Tout est changé dans l'horizon de notre vie, atmosphère et perspective. Mais il s'écoule un long temps avant que nos yeux aient perdu cette sorte d'image lumineuse du bonheur passé qui les suit. Et, s'interposant sans cesse entre eux et le sombre présent, en change la couleur et donne je ne sais quoi de faux à la réalité. Alors, tout ce qui est nous paraît impossible et absurde. Nous croyons à peine à notre propre existence, parce que, ne retrouvant rien autour de nous de ce qui composait notre être, nous ne comprenons pas comment tout cela aurait disparu sans nous entraîner. Et pourquoi de notre vie, il ne serait resté que nous? Si cette position violente de l'âme se prolonge, elle dérange l'équilibre de la pensée et devient folie. État peut-être heureux, dans lequel la vie n'est plus pour l'infortuné qu'une vision dont il est lui-même le fantôme. Chapitre 40. J'ignore, messieurs, pourquoi je vous expose ces idées. Ce ne sont point de celles que l'on comprend, ni que l'on fait comprendre. Il faut les avoir sentis. Je les ai éprouvés. C'était l'état de mon âme au moment où les gardes de Biassou me remirent aux nègres du Morne Rouge. Il me semblait que c'était des spectres qui me livraient à des spectres, et sans opposer de résistance, je me laissai lier par la ceinture au tronc d'un arbre. Ils m'apportèrent quelques patates cuites dans l'eau, que je mangeais par cette sorte d'instinct machinal que la bonté de Dieu laisse à l'homme au milieu des préoccupations de l'esprit. Cependant, la nuit était venue. Mes gardiens se retirèrent dans leurs ajoupas, et 6 d'entre eux seulement restèrent près de moi, assis ou couchés devant un grand feu qu'ils avaient allumé pour se préserver du froid nocturne. Au bout de quelques instants, tous s'endormirent profondément. L'accablement physique dans lequel je me trouvais alors ne contribuait pas peu aux vagues rêveries qui égaraient ma pensée. Je me rappelais les jours sereins et toujours les mêmes, que, peu de semaines auparavant, je passais encore près de Marie, sans même entrevoir dans l'avenir une autre possibilité que celle d'un bonheur éternel. Je les comparais à la journée qui venait de s'écouler, journée où tant de choses étranges s'étaient déroulées devant moi, comme pour me faire douter de leur existence, où ma vie avait été 3 fois condamnée et n'avait pas été sauvée. Je méditais sur mon avenir présent, qui ne se composait plus que d'un lendemain et ne m'offrait plus d'autre certitude que le malheur et la mort. Heureusement prochaine. Il me semblait lutter contre un cauchemar affreux. Je me demandais s'il était possible que tout ce qui s'était passé, que ce qui m'entourait, fût le camp du sanguinaire Biassou, que Marie fût pour jamais perdue pour moi, et que ce prisonnier, gardé par 6 barbares, garrotté et voué à une mort certaine, ce prisonnier que me montrait la lueur d'un feu de brigand, fût bien moi. Et, malgré tous mes efforts pour fuir l'obsession d'une pensée bien plus déchirante encore, mon cœur revenait à Marie. Je m'interrogeais avec angoisse sur son sort. Je me roidissais dans mes liens comme pour voler à son secours, espérant toujours que le rêve horrible se dissiperait et que Dieu n'aurait pas voulu faire entrer toutes les horreurs sur lesquelles je n'osais m'arrêter dans la destinée de l'ange qu'il m'avait donné pour épouse. L'enchaînement douloureux de mes idées ramenait alors Pierrot devant moi, et la rage me rendait presque insensée. Les artères de mon front me semblaient prêtes à se rompre. Je me haïssais, je me maudissais, je me méprisais pour avoir un moment uni mon amitié pour Pierrot à mon amour pour Marie. Et, sans chercher à m'expliquer quel motif avait pu le pousser à se jeter lui-même dans les eaux de la grande rivière, je pleurais de ne point l'avoir tué. Il était mort, j'allais mourir, et la seule chose que je regrettasse de sa vie et de la mienne, c'était ma vengeance. Toutes ces émotions m'agitaient au milieu d'un demi-sommeil dans lequel l'épuisement m'avait plongé. Je ne sais combien de temps il dura, mais j'en fus soudainement arraché par le retentissement d'une voix mâle qui chantait distinctement, mais de loin, « Io che soy contrabandista ». J'ouvris les yeux en tressaillant. Tout était noir. Les nègres dormaient, le feu mourait. Je n'entendais plus rien. Je pensais que cette voix était une illusion du sommeil, et mes paupières alourdies se refermèrent. Je les ouvris une seconde fois précipitamment. La voix avait recommencé et chantait avec tristesse et de plus près ce couplet d'une romance espagnole. « En los campos de Ocaña, prisonero cae, me elevan a cotadilla, desde cado fui. » Dans les champs d'Ocafia, je tombai prisonnier. Ils m'emmenèrent à Cotadilla, je fus malheureux. Cette fois, il n'y avait plus de rêve, c'était la voix de Pierrot. Un moment après, elle s'éleva encore dans l'ombre et le silence, et fit entendre pour la deuxième fois, presque à mon oreille, l'air connu. Io che soy contrabandista. Un dogue vint joyeusement se rouler à mes pieds, c'était Rasque. Je levai les yeux. Un noir était devant moi, et la lueur du foyer projetait à côté du chien son ombre colossale. C'était Pierrot. La vengeance me transporta. La surprise me rendit immobile et muet. Je ne dormais pas. Les morts revenaient donc. Ce n'était plus un songe, mais une apparition. Je me détournai avec horreur. À cette vue, sa tête tomba sur sa poitrine. « Frère, murmura-t-il à voix basse, tu m'avais promis de ne jamais douter de moi quand tu m'entendrais chanter cet air. Frère, dis, as-tu oublié ta promesse ?» La colère me rendit la parole. « Monstre ! M'écriai-je, je te retrouve donc enfin, bourreau, assassin de mon oncle, ravisseur de Marie, oses-tu m'appeler ton frère ? Tiens, ne m'approche pas !» J'oubliais que j'étais attaché, de manière à ne pouvoir faire presque aucun mouvement. J'abaissais comme involontairement les yeux sur mon côté pour y chercher mon épée. Cette intention visible le frappa. Il prit un air ému, mais doux. « Non, dit-il, non, je n'approcherai pas. Tu es malheureux, je te plains. Toi, tu ne me plains pas. Quoique je sois plus malheureux que toi. » Je haussai les épaules. Il comprit ce reproche muet. Il me regarda d'un air rêveur. « Oui, tu as beaucoup perdu. Mais, crois-moi, j'ai perdu plus que toi. » Cependant, ce bruit de voix avait réveillé les six nègres qui me gardaient. Apercevant un danger, ils se levèrent précipitamment en saisissant leurs armes. Mais dès que leurs regards se furent arrêtés sur Pierrot, ils poussèrent un cri de surprise et de joie et tombèrent prosternés en battant la terre de leur front. Mais les respects que ces nègres rendaient à Pierrot, les caresses que Rasque portait alternativement de son maître à moi, en me regardant avec inquiétude, comme étonné de mon froid accueil, rien ne faisait impression sur moi en ce moment. J'étais tout entière à l'émotion de ma rage, rendue impuissante par les liens qui me chargeaient. « Oh ! M'écriai-je enfin, en pleurant de fureur sous les entraves qui me retenaient. « Oh ! Que je suis malheureux ! Je regrettais que ce misérable se fût fait justice à lui-même. Je le croyais mort et je me désolais pour ma vengeance. Et maintenant le voilà qui vient me narguer lui-même. Il est là, vivant, sous mes yeux, et je ne puis jouir du bonheur de le poignarder. Oh ! Qui me délivrera de ces exécrables nœuds ?» Pierrot se retourna vers les nègres, toujours en adoration devant lui. « Camarade, dit-il, détachez le prisonnier. » Chapitre 41. Il fut promptement obéi. Mes six gardes coupèrent avec empressement les cordes qui m'entouraient. Je me levai debout et libre, mais je restai immobile. L'étonnement m'enchaînait à son tour. « Ce n'est pas tout, reprit alors Pierrot. Et, arrachant le poignard de l'un de ses nègres, il me le présenta en disant « Tu peux te satisfaire. À Dieu ne plaise que je te dispute le droit de disposer de ma vie. Tu l'as sauvée trois fois. Elle est bien à toi maintenant. Frappe, si tu veux frapper. » Il n'y avait ni reproche ni amertume dans sa voix. Il n'était que triste et résigné. Cette voix, inattendue, ouverte à ma vengeance par celui-même qu'elle brûlait d'atteindre, avait quelque chose de trop étrange et de trop facile. Je sentis que toute ma haine pour Pierrot, tout mon amour pour Marie, ne suffisait pas pour me porter à un assassinat. D'ailleurs, quelles que fussent les apparences, une voix me criait au fond du cœur qu'un ennemi et un coupable ne vient pas de cette manière au-devant de la vengeance et du châtiment. Vous le dirai-je enfin. Il y avait, dans le prestige impérieux dont cet être extraordinaire était environné, quelque chose qui me subjuguait moi-même, malgré moi, dans ce moment. Je repoussai le poignard. « Malheureux, lui dis-je, je veux bien te tuer dans un combat, mais non t'assassiner. Défends-toi. »« Que je me défende ? » répondit-il étonné. « Et contre qui ? Contre moi ! » Il fit un geste de stupeur. « Contre toi ? C'est la seule chose pour laquelle je ne puisse t'obéir. Vois-tu, Rasque, je puis bien l'égorger, il se laissera faire. Mais je ne saurais le contraindre à lutter contre moi, il ne me comprendrait point. Je ne te comprends pas, je suis rasque pour toi. » Il ajouta après un silence, « Je vois la haine dans tes yeux, comme tu l'as pu voir un jour dans les miens. Je sais que tu as éprouvé bien des malheurs, ton oncle massacré, tes champs incendiés, tes amis égorgés. On a saccagé ta maison, dévasté ton héritage. Mais ce n'est pas moi, ce sont les miens. Écoute, je t'ai dit un jour que les tiens m'avaient fait bien du mal. Tu m'as répondu que ce n'était pas toi. Qu'ai-je fait alors ? » Son visage s'éclaircit. Il s'attendait à me voir tomber dans ses bras. Je le regardais d'un air farouche. « Tu désavoues tout ce que m'ont fait les tiens !» lui dis-je avec l'accent de la fureur. « Et tu ne parles pas de ce que tu m'as fait, toi !»« Quoi donc ? » demanda-t-il. Je m'approchai violemment de lui et ma voix devint un tonnerre. « Où est Marie ? Qu'as-tu fait de Marie ?» À ce nom, un nuage passa sur son front. Il parut un moment embarrassé, enfin rompant le silence. « Maria, répondit-il, oui, tu as raison, mais trop d'oreilles nous écoutent. » Son embarras, ces mots « tu as raison » rallumèrent un enfer dans mon cœur. Je crus voir qu'il éludait ma question. En ce moment, il me regarda avec son visage ouvert et me dit avec une émotion profonde « Ne me soupçonne pas, je t'en conjure. Je te dirai tout cela ailleurs. Tiens, aime-moi comme je t'aime, avec confiance. » Il s'arrêta un instant pour observer l'effet de ses paroles et ajouta avec attendrissement « Puis-je t'appeler frère ?» Mais ma colère jalouse avait repris toute sa violence et ses paroles tendres, qui me parurent hypocrites, ne firent que l'exaspérer. « Oses-tu bien me rappeler ce temps ? » m'écriai-je. « Misérable ingrat !» Il m'interrompit. De grosses larmes brillaient dans ses yeux. « Ce n'est pas moi qui suis ingrat. »« Eh bien, parle !» repris-je avec emportement. « Qu'as-tu fait de Marie ?»« Ailleurs, ailleurs !» me répondit-il. « Ici, nos oreilles n'entendent pas seules ce que nous disons. Au reste, tu ne me croirais pas sans doute sur parole, et puis le temps presse. » Voilà qu'il fait jour, et il faut que je te tire d'ici. Écoute, tout est fini, puisque tu doutes de moi, et tu feras aussi bien de m'achever avec un poignard. Mais attends encore un peu, avant d'exécuter ce que tu appelles ta vengeance. Je dois d'abord te délivrer. Viens avec moi trouver Biassou. » Cette manière d'agir et de parler cachait un mystère que je ne pouvais comprendre. Malgré toutes mes préventions contre cet homme, sa voix faisait toujours vibrer une corde dans mon cœur. En l'écoutant, je ne sais quelle puissance me dominait. Je me surprenais, balançant entre la vengeance et la pitié, la défiance et un aveugle abandon. Je le suivis. Chapitre 42. Nous sortîmes du quartier des nègres du Morne Rouge. Je m'étonnais de marcher libre dans ce camp barbare où la veille chaque brigand semblait avoir soif de mon sang. Loin de chercher à nous arrêter, les noirs et les mulâtres se prosternaient sur notre passage avec des exclamations de surprise, de joie et de respect. J'ignorais quel rang Pierrot occupait dans l'armée des révoltés, mais je me rappelais l'empire qu'il exerçait sur ses compagnons d'esclavage, et je m'expliquais sans peine l'importance dont il paraissait jouir parmi ses camarades de rébellion. Arrivés à la ligne de garde qui veillait devant la grotte de Biassou, le mulâtre Candy, leur chef, vint à nous demandant de loin, avec menace, pourquoi nous osions avancer si près du général. Mais quand il fut à portée de voir distinctement les traits de Pierrot, il ôta subitement sa montera brodée en or, et, comme terrifié de sa propre audace, il s'inclina jusqu'à terre et nous introduisit près de Biassou, en balbutiant mille excuses auxquelles Pierrot ne répondit que par un geste de dédain. Le respect des simples soldats nègres, pour Pierrot, ne m'avait pas étonné. Mais en voyant Candide, l'un de leurs principaux officiers, s'humilier ainsi devant l'esclave de mon oncle, je commençai à me demander quel pouvait être cet homme dont l'autorité semblait si grande. Ce fut bien autre chose quand je vis le généralissime, qui était seul au moment où nous entrâmes et mangeait tranquillement un calalou, se lever précipitamment à l'aspect de Pierrot et, dissimulant une surprise inquiète et un violent dépit sous des apparences de profond respect, s'incliner humblement devant mon compagnon et lui offrir son propre trône d'acajou. Pierrot refusa. « Jean Biassou, dit-il, je ne suis pas venu vous prendre votre place, mais simplement vous demander une grâce. »« Altezza, répondit Biassou en redoublant ses salutations, vous savez que vous pouvez disposer de tout ce qui dépend de Jean Biassou, de tout ce qui appartient à Jean Biassou, et de Jean Biassou lui-même. » Ce titre d'Altezza, qui équivaut à celui d'altesse ou de hôtesse, donné à Pierrot par Biassou, accrut encore mon étonnement. « Je n'en veux pas tant, reprit vivement Pierrot. Je ne vous demande que la vie et la liberté de ce prisonnier. » Il me désignait de la main. Biassou parut un moment interdit. Cet embarras fut court. « Vous désolez votre serviteur, Altezza. Vous exigez de lui bien plus qu'il ne peut vous accorder, à son grand regret. Ce prisonnier n'est point Jean Biassou, n'appartient pas à Jean Biassou et ne dépend pas de Jean Biassou. Que voulez-vous dire ? Demanda Pierrot sévèrement. De qui dépend-il donc ? Y a-t-il un autre pouvoir que vous ?
Hélas, oui, Altezza.
Et lequel ?
Mon armée.
L'air caressant et rusé avec lequel Biassou éludait les questions hautaines et franches de Pierrot annonçait qu'il était déterminé à n'accorder à l'autre que les respects auxquels il paraissait obligé.
« Comment ? » s'écria Pierrot. « Votre armée ? Et ne la commandez-vous pas ?»
Biassou, conservant son avantage, sans quitter pourtant son attitude d'infériorité, répondit avec une apparence de sincérité. « Sous Altezza pense-t-elle que l'on puisse réellement commander à des hommes qui ne se révoltent que pour ne pas obéir ?» J'attachais trop peu de prix à la vie pour rompre le silence, mais ce que j'avais vu la veille de l'autorité illimitée de Biassou sur ses bandes aurait pu me fournir l'occasion de le démentir et de montrer à nu sa duplicité. Pierrot lui répliqua « Eh bien, si vous ne savez pas commander à votre armée, et si vos soldats sont vos chefs, quels motifs de haine peuvent-ils avoir contre ce prisonnier ?»
« Boukman vient d'être tué par les troupes du gouvernement, » dit Biassou, en composant tristement son visage féroce et railleur. « Les miens ont résolu de venger sur ce blanc la mort du chef des nègres marrons de la Jamaïque. Ils veulent opposer trophée à trophée, et que la tête de ce jeune officier serve de contrepoids à la tête de Boukman dans la balance où le bon Jiu pèse les deux parties.
« Comment avez-vous pu ?» dit Pierrot, adhérer à ces horribles représailles. Écoutez-moi, Jean Biassou, ce sont ces cruautés qui perdront notre juste cause. Prisonnier au camp des Blancs, d'où j'ai réussi à m'échapper, j'ignorais la mort de Boukman que vous m'apprenez. C'est un juste châtiment du ciel pour ces crimes. Je vais vous apprendre une autre nouvelle. Jeannot, ce même chef de noir, qui avait servi de guide aux Blancs pour les attirer dans l'embuscade de Dompte Mulâtre, Jeannot vient aussi de mourir. Vous savez, ne m'interrompez pas, Biassou, qu'il rivalisait d'atrocité avec Boukman et vous. Or, faites attention à ceci. Ce n'est point la foudre du ciel. Ce ne sont point les Blancs qui l'ont frappé. C'est Jean-François lui-même qui a fait cet acte de justice. Biassou, qui écoutait avec un sombre respect, fit une exclamation de surprise. En ce moment, Rigaud entra, salua profondément Pierrot et parla bas à l'oreille du généralissime.
on entendait au dehors une grande agitation dans le camp. Pierrot continuait. « Oui, Jean-François, qui n'a d'autre défaut qu'un luxe funeste et l'étalage ridicule de cette voiture à 6 chevaux, qui le mène chaque jour de son camp à la messe du curé de la Grande Rivière. Jean-François a puni les fureurs de Jeannot. Malgré les lâches prières du brigand, quoiqu'à son dernier moment, il se soit cramponné au curé de la Marmelade, chargé de l'exhorter, avec tant de terreur qu'on a dû l'arracher de force. Le monstre a été fusillé hier, au pied même de l'arbre armé de crochets de fer auquel il suspendait ses victimes vivantes. Biassou, méditez cet exemple. Pourquoi ces massacres qui contraignent les Blancs à la férocité? Pourquoi encore user de jonglerie afin d'exciter la fureur de nos malheureux camarades, déjà trop exaspérés? Il y a, au Troukofi, un charlatan mulâtre, nommé Romaine la prophétesse, qui fanatise une bande de Noirs. Il profane la Sainte Messe, il leur persuade qu'il est en rapport avec la Vierge, dont il écoute les prétendus oracles en mettant sa tête dans le tabernacle, et il pousse ses camarades au meurtre et au pillage, au nom de Marie. » Il y avait peut-être une expression plus tendre encore que la vénération religieuse dans la manière dont Pierrot prononça ce nom. Je ne sais comment cela se fit, mais je m'en sentis offensé et irrité. « Eh bien, poursuivit l'esclave, vous avez dans votre camp je ne sais quel hobby, je ne sais quel jongleur, comme ce Romaine la prophétesse. Je n'ignore point qu'ayant à conduire une armée composée d'hommes de tout pays, de toute famille, de toute couleur, un lien commun vous est nécessaire. Mais ne pouvez-vous le trouver autre part que dans un fanatisme féroce et des superstitions ridicules? Croyez-moi, Biassou, les Blancs sont moins cruels que nous. J'ai vu beaucoup de planteurs défendre les jours de leurs esclaves. Je n'ignore pas que pour plusieurs d'entre eux, ce n'était pas sauver la vie d'un homme, mais une somme d'argent. Du moins, leur intérêt leur donnait une vertu. Ne soyons pas moins cléments qu'eux. C'est aussi notre intérêt. Notre cause sera-t-elle plus sainte et plus juste quand nous aurons exterminé des femmes, égorgé des enfants, torturé des vieillards, brûlé des colons dans leurs maisons? Ce sont là pourtant nos exploits de chaque jour. Faut-il, répondez, Biassou, que le seul vestige de notre passage soit toujours une trace de sang ou une trace de feu? » Il se tut. L'éclat de son regard, l'accent de sa voix, donnait à ses paroles une force de conviction et d'autorité impossible à reproduire. Comme un renard pris par un lion, l'œil obliquement baissé de Biassou semblait chercher par quelle ruse il pourrait échapper à tant de puissance. Pendant qu'il méditait, le chef de la bande des Cailles, ce même Rigaud qui la veille avait vu d'un front tranquille tant d'horreur se commettre devant lui, paraissait s'indigner des attentats dont Pierrot avait tracé le tableau, et s'écriait avec une hypocrite consternation « Eh, mon bon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un peuple en fureur ?» Chapitre 43. Cependant, la rumeur extérieure s'accroissait et paraissait inquiéter Biassou. J'ai appris plus tard que cette rumeur provenait des nègres du Morne Rouge qui parcouraient le camp en annonçant le retour de mon libérateur et exprimaient l'intention de le seconder, quel que fût le motif pour lequel il s'était rendu près de Biassou. Rigaud venait d'informer le généralissime de cette circonstance. Et c'est la crainte d'une scission funeste qui détermina le chef rusé à l'espèce de concession qu'il fit au désir de Pierrot. « Altenza, dit-il avec un air de dépit, « si nous sommes sévères pour les Blancs, vous êtes sévères pour nous. Vous avez tort de m'accuser de la violence du torrent. Il m'entraîne, mais enfin, que podria hacer ahora? Que pourrais-je faire maintenant? Qui vous fût agréable? « Je vous l'ai déjà dit, seigneur Biassou, » répondit Pierrot. « Laissez-moi emmener ce prisonnier. » Biassou demeura un moment pensif, puis s'écria, donnant à l'expression de ses traits le plus de franchise qu'il put. « Allons, Altenza, Je veux vous prouver quel est mon désir de vous plaire. Permettez-moi seulement de dire deux mots en secret au prisonnier. Il sera libre ensuite de vous suivre.
Vraiment ? Qu'à cela ne tienne, répondit Pierrot.
Et son visage, jusqu'alors fier et mécontent, rayonnait de joie. Il s'éloigna de quelques pas. Biassou m'entraîna dans un coin de la grotte et me dit à voix basse.
« Je ne puis t'accorder la vie qu'à une condition. Tu la connais. Y souscris-tu ? »
Il me montrait la dépêche de Jean-François. Un consentement m'eût paru une bassesse.
« Non,
lui dis-je. « Ah ! Reprit-il avec son ricanement.
« Toujours aussi décidé. Tu comptes donc beaucoup sur ton protecteur. Sais-tu qui il est ?»«
Oui, lui répliquai-je vivement. C'est un monstre comme toi. » Seulement plus hypocrite encore. Il se redressa avec étonnement, et, cherchant à deviner dans mes yeux si je parlais sérieusement,
« Comment ? » dit-il. « Tu ne le connais donc pas ?»
Je répondis avec dédain, « Je ne reconnais en lui qu'un esclave de mon oncle, nommé Pierrot. » Biassou se remit à ricaner.
« Ha ha ! Voilà qui est singulier. Il demande ta vie et ta liberté, et tu l'appelles un monstre comme moi.
Mais que m'importe, répondis-je. Si j'obtenais un moment de liberté, ce ne serait pas pour lui demander ma vie, mais la sienne.
Qu'est-ce que cela ? Dit Biassou. Tu parais pourtant parler comme tu penses, et je ne suppose pas que tu veuilles plaisanter avec ta vie.
Il y a là-dessous quelque chose que je ne comprends pas. Tu es protégé par un homme que tu hais. Il plaide pour ta vie, et tu veux sa mort.
Au reste, cela m'est égal à moi.
Tu désires un moment de liberté, c'est la seule chose que je puisse t'accorder. Je te laisserai libre de le suivre. Donne-moi seulement d'abord ta parole d'honneur de venir te remettre dans mes mains 2 heures avant le coucher du soleil. Tu es français, n'est-ce pas ?
Vous le dirai-je, messieurs. La vie m'était à charge. Je répugnais d'ailleurs à la recevoir de ce Pierrot que tant d'apparences désignaient à ma haine.
Je ne sais pas si même il n'entra pas dans ma résolution la certitude que Biassou, qui ne lâchait pas aisément une proie, ne consentirait jamais à ma délivrance. Je ne désirais réellement que quelques heures de liberté pour achever, avant de mourir, d'éclaircir le sort de ma bien-aimée Marie et le mien. La parole que Biassou, confiante en l'honneur français, me demandait, était un moyen sûr et facile d'obtenir encore un jour. Je la donnais. Après m'avoir lié de la sorte, le chef se rapprocha de Pierrot.
« Altezza, dit-il d'un ton obséquieux, le prisonnier blanc est à vos ordres. Vous pouvez l'emmener. Il est libre de vous accompagner. »
Je n'avais jamais vu autant de bonheur dans les yeux de Pierrot. « Merci, Biassou !» s'écria-t-il en lui tendant la main. « Merci ! Tu viens de me rendre un service qui te fait maître désormais de tout exiger de moi. Continue à disposer de mes frères du Morne Rouge jusqu'à mon retour. » Il se tourna vers moi. « Puisque tu es libre, dit-il, viens. » Et il m'entraîna avec une énergie singulière. Biassou nous regarda sortir d'un air étonné, qui perçait même à travers les démonstrations de respect dont il accompagna le départ de Pierrot.